Il y aura des fleurs, 1992-1993. Je vous propose un résumé de la programmation de Vertical Centre d'artistes à ses tout débuts, alors que la galerie Élisée domicile au 1897 boulevard d'Agenais à Laval. Vous serez plongé dans le bloc 2, où je vous présente quelques éléments qui auront retenu mon attention durant cette deuxième année de programmation. La neuvième exposition est consacrée à une seule membre, Stella Cosma, une artiste qui travaille de jour comme de nuit. Elle y présente une vingtaine de tableaux qu'elle sépare sous deux thématiques. Les fragments oniriques, des petits tableaux, et notes chromatiques, qui sont pour la plupart des murales. Son univers se compose de petites maisons, parfois habitées ou qui demandent à l'être. Elles sont squelettes, elles sont fantômes. Ces murales se parent de couleurs soigneusement recueillies au cours de ses promenades, prennent vie tout en texture et où naissent des métamorphoses de l'espace pictural. Moi, avec mes crayons de plomb résolument noirs ou gris, comment puis-je traduire son travail? Je me construis et m'identifie dans ses habitations, mais comment comprendre réellement si je ne procède pas dans le même ordre, avec les mêmes intentions et les mêmes matériaux? Barbara Klaas, Francesca Pensirini et Violaine Poirier, artistes de la relève, font partie de la dixième exposition sous le thème « Transgression ». Je n'utilise pas d'équipement spécialisé pour grossir les diapositives classées dans les archives. Je plisse un peu les yeux pour comprendre les images encadrées dans les études plastiques. Parfois, mais rarement, il y a de gros plans. Mais pour le reste, je tente d'identifier et improvise beaucoup dans mon interprétation du dessin. La lecture des communiqués amène un certain éclairage, mais mon esprit demeure libre. Mon crayon hésite. Qu'est-ce que je peux faire avec ces informations? D'autant que la documentation écrite ne colle pas aux œuvres photographiées. Pas tout à fait. Alors qu'on parle d'une grande frise pour Barbara Klaas, moi, j'y vois trois pièces distinctes dont les formats semblent différents de ceux annoncés. Pour Francesca Pensirini, c'est l'union de deux formes au sol, dont une immense vague peinte en bleu. Quant à Violaine Poirier, ce sont des images d'animaux tirées de sa série Spécilège qui s'offre à moi. Je reste absorbée dans l'image de cette immense vague moulée qui projette au sol une ombre délicate. La onzième exposition s'intitule « Phylactères, les figures qui parlent », commissariée par Christine Bernier. Elle rassemble 12 artistes, Raymond April, Catherine Bédard, Clémence Desrochers, Roland Giguère, Alain Laframboise, André Martin, Hélène Merlin, Serge Murphy, Claire Paquet, Suzanne Paquet, Louise Robert et Francine Simonin. Il s'agit d'une exposition pour souligner les liens entre les arts visuels et le milieu littéraire. Un catalogue accompagne l'exposition, dans lequel j'ai un aperçu des œuvres photographiées en beaucoup plus grand que ce que les diapositives peuvent exprimer. L'expo propose photographies, dessins, sculptures, peintures et gravures. C'est la sculpture de Serge Murphy qui retient mon attention parce que la silhouette de l'une des composantes me fait penser à l'immense vague de l'exposition précédente dont je termine à peine le dessin. Je m'arrête donc pour reprendre ses contours et évoquer cette ressemblance. La commissaire Christine Bernier la décrit d'ailleurs comme une algue bleue. Vague, algue, on nage dans les mêmes eaux. Pour le travail de Murphy, on parle d'organisation d'éléments, d'assemblage d'associations diverses et de disparités. Mais les phrases qui retiennent mon attention dans ce catalogue sont celles-ci. Quelle est la liberté de l'artiste? Quelle liberté peut-il prendre? Qui décide pour lui? Qui parle quand l'artiste parle? Parce que la liberté que je prends à réinterpréter par le dessin les œuvres d'artistes de la programmation passée de Vertical me fait m'interroger sur ma propre création. Est-ce que je flirte avec le plagiat? Je voulais imaginer des rendus, inventer des formes, et je me rends compte que mes interprétations se collent aux originaux, avec une grande part de nuance toutefois. Alors quand je parle, ou plutôt, quand je dessine, qui dessine? il y a une pause dans la programmation pour faire place à l'exposition de Noël des membres. C'est un événement bénéfice intitulé 20-50-100-200. Je ne considère pas l'événement comme faisant partie d'une programmation planifiée, mais l'activité m'interpelle puisqu'elle sollicite les membres et contribue à renforcer le sentiment d'appartenance au centre d'une part, tout en tendant la main vers le grand public pour un meilleur rayonnement du centre. Dans quelle mesure la question du sentiment d'appartenance à un centre d'artistes a-t-elle fluctué au cours des années? Je suis membre de quelques centres et je constate qu'il y a un noyau dur de membres, une petite poignée d'individus qui les soutiennent pour diverses raisons et auxquelles s'ajoutent bien souvent les artistes de la programmation annuelle. Cela amène du sang neuf, certains s'impliquent comme bénévoles, d'autres se joignent au conseil d'administration. Doit-on entretenir un lien étroit avec son membrariat? Quels avantages les artistes peuvent-ils tirer ou s'attendent-ils à tirer d'être membre d'un centre plutôt que d'un autre? Et ultimement, devraient-ils s'attendre à bénéficier davantage? La Société des arts visuels de Laval fut créée en 1987 et regroupait à l'époque des artistes majoritairement lavallois. C'est une situation qui a changé au fil du temps. Peut-être en raison de la diminution du nombre d'artistes professionnels sur l'île Jésus, mais le fait lavallois n'a plus préséance. S'il n'y a plus de raison de se regrouper et de serrer les rangs, pourquoi demeurer à Laval? Comment peut s'opérer l'attractivité et la rétention des artistes à Laval? Par l'accès à des équipements, par des projets porteurs et des opportunités à saisir. 12e exposition, ni trop près, ni trop loin. C'est une exposition individuelle de Mario Côté qui propose principalement de la peinture accompagnée d'une installation vidéo. Pour cet artiste, il y a une similitude entre le procédé de collage dans ses tableaux et celui du montage d'images en vidéo. Ce qui retient mon attention dans ce dossier est la toute petite maquette de la mise en espace en galerie. Dans une grande bande de carton que l'on peut plier pour former les quatre murs de la galerie, on y découvre l'emplacement de chaque tableau dans un rapport d'échelle sans faute. Les miniatures traitent de l'application de la couleur, réduite à son geste le plus simple, et font surgir les possibilités de ses combinaisons colorées. Une vidéo complète l'ensemble, dans laquelle les images sont rassemblées comme des collages. Mario Côté pose ainsi la question d'une reformulation de l'idée du tableau. Passage et vertige. Une exposition solo de Julie Lefebvre qui présente 13 tableaux, peintures et collages où le bleu domine l'espace pictural. Je reprends ici les mots qui définissent la démarche de Julie Lefebvre. Elle interroge l'espace du tableau et sa frontalité en travaillant alternativement le tableau au mur et au sol. Elle s'intéresse à l'effet du passage de l'espace physique à l'espace mental. Moi, je me demande si l'ordre de ces deux expressions est délibéré. Pour moi, quand je crée, il me semble que c'est l'ordre inverse qui s'exerce. C'est l'effet du passage du mental au physique qui se traduit en création. Ce que j'ai en tête et à l'esprit, je le transpose ultimement dans mes gestes et par la matière. Et si pour créer, je procédais de l'espace physique à celui du mental, comme le suggère Julie, alors je crois que l'influence de ce qu'il y aurait devant moi opérerait un changement en moi. Mon environnement façonnerait mon esprit. Et par la suite, mon espace mental serait réinjecté en création. Les deux approches seraient-elles complémentaires et indissociables? Laurent Pilon, œuvre récente. La galerie présente trois hauts reliefs de résine de polyester et de poudre minérale comme des relevés architecturaux ressemblant à des constructions précaires. Les sculptures sont accompagnées de trois grands dessins horizontaux réalisés à l'encre et à l'huile sur papier kraft. Tout est texture et matière, comme des débris de vieux hangars ou des résidus d'un Spoutnik explosé que l'on viendrait de retrouver sans pied sous mer. En complément, ces dessins sur papier kraft rappellent plutôt de vieux manuscrits ou parchemins dont les hiéroglyphes représentent eux-mêmes des vestiges architecturaux dans une échelle et une perspective encore pleine de secrets. La 15e exposition s'intitule « Production en direct » avec René Chevalier, Stella Cosma, Joanne Schneider et Nicole Turmel. En juin 1993, avant la fermeture estivale de la galerie, quatre artistes se prêtent au jeu de la création en direct à laquelle le public est convié. René Chevalier expérimente sur papier où coexisteront le sacré et le profane. Stella Cosma se penche sur l'effet visuel tout en couleurs. Nicole Turmel crée des œuvres grand format, tandis que Joanne Schneider axe ses recherches sur l'interface comme lieu de création. Il y a un vide dans les archives visuelles, mais je suis enthousiaste des dessins laissés par Schneider sur son idée d'interface, le petit espace vide entre deux éléments. De tout temps, je me suis demandé où s'arrête l'espace entre mes doigts lorsque je les rapproche doucement, et pourquoi, à un certain moment, il y a contact. À l'échelle microscopique, je pourrais m'arrêter juste avant. Ça m'intrigue encore aujourd'hui. C'est un drôle d'espace de création. Ici prend fin le deuxième bloc. Je vous invite à passer au bloc 3 pour accompagner la découverte des dessins inspirés de la programmation 1993 et 1994.